Depuis leur arrivée en librairie il y a un an et demi, les livres 404 Comics intriguent, surprennent, par leur qualité et leur finition. La participation de Nicolas Beaujouan, directeur éditorial de cette structure, à la tournée Mundus était trop belle. Les gardiens de la BD se sont donc rendus à Lille pour y rencontrer l'éditeur. Entretien qui commencera juste après le premier titre choisi par l'invité, Diabologum avec De la neige en été.
Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé. Au milieu du mois d'août, je crois qu'il a neigé. Il n'y avait plus personne aux terrasses des cafés. Et tous les magasins étaient fermés. On aurait dit la guerre, ou bien un jour férié. Sans repas de famille et sans électricité. Il n'y avait rien à faire, et rien n'a été fait. Il n'y avait rien à faire, incroyable mais vrai. Aujourd'hui c'est réserve, problème de scénario. L'hiver est de retour, 6 mois, trop tôt. On s'attendons au pire, il faut en profiter. On n'a pas tous les jours de la neige en été. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé. Au milieu du mois d'août, 0 degrés. Il y avait un grand feu dans la rue d'à côté. Apparemment les gens voulaient se réchauffer. Penser à autre chose, parler un peu de tout. Parler un peu c'est bien, et ça ne gâche rien. Comme ça tous en Kawaii, comme ça en plein été. Ils ont tiré les rois, il y avait 2-3 chiens. Je les ai vus trinquer, les gens de mon quartier. Quelqu'un a même dit qu'il était désolé. Ils ont mangé du pain, ils ont l'air d'être à bout. Et si ça continue, ils vont devenir fous. On s'attend donc au pire, il faut en profiter. On n'a pas tous les jours de la neige en été. On n'a pas tous les jours de la neige en été. Personne n'a rien dit. On s'est tous regardés et personne n'a rien dit. Ça ne fait plus aucun doute maintenant. Aucun doute, j'en ai bien peur. On s'est trompé de A jusqu'à Z. On s'est foutu le doigt dans l'œil et personne n'a rien dit. On voudrait bien faire marche arrière. Un nouveau départ en quelque sorte. Mais personne n'a rien dit. Ce qui est fait est fait. Il est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Ce qui est fait est fait. Il est trop tard. Et personne n'a rien dit. On a joué aux champions, on a marqué des buts entre 4 blousons, de ce coin de la ville et jusqu'à l'horizon. Il y avait des flammes, toutes les 10 maisons.
nous sommes actuellement à Lille en compagnie de Nicolas Beaujouan, directeur de 404 Comics. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Thibaut est avec moi, il interviendra en fonction de ses envies. Thibaut, bonjour.
Bonjour Nico, bonjour Nicolas.
On va commencer tout de suite. Nicolas, peux-tu te présenter sommairement?
Ah oui, ça va falloir que ce soit super sommaire. Nicolas Beaujouan, et bah, comme vous l'avez présenté déjà, directeur éditorial d'une toute petite maison au sein d'un gros groupe, donc 404 Comics, au sein d'Edi8 qui appartient elle-même à Editis. Voilà.
Et tu peux nous parler de ton parcours avant d'arriver directeur éditorial?
C'est pour ça qu'il fallait faire court, donc je voulais pas rentrer là-dedans. J'ai un parcours qu'on va qualifier d'atypique. J'ai d'abord été responsable d'une salle de concert, avant de devenir musicien professionnel, de signer un album de pop musique avec des camarades chez Sony à l'époque, au début des années 2000. Et ensuite j'ai monté une maison de disques, et ensuite je suis devenu directeur artistique parce que j'avais fait au préalable des études d'art. Et maintenant je suis donc directeur éditorial de maison. Avant, j'étais directeur artistique chez Hachette.
Ouais, donc t'as fait le chemin inverse de ton patron actuel.
Je pense qu'on a tous fait le chemin inverse.
Et du coup, la bande dessinée, tu y es venu comment? Tôt, je pense.
C'est ce que je vous expliquais hors micro tout à l'heure. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une famille, des grands-parents lecteurs de BD, un père qui a été libraire aussi, donc qui ramenait beaucoup de 48cc du classique, ce qui fait que je suis toujours amoureux des petits hommes de Céron, par exemple, ou Benoît Bricefer même, j'ai aucun problème avec ça, ou Sibyline, voilà, je vais enchaîner, après, c'est terrible. Mais surtout, j'avais un nom qui était éditeur de BD, qui a commencé... on va dire au début des années 80, qui a récupéré la gestion de Pilote, qui a récupéré l'Écho des Savanes dans sa deuxième formule, et qui était directeur éditorial de l'album Michel BD, donc qui a fait aussi la fin de Comics USA, tout ça, donc qui a édité Dave Stevens, Rocketeer, Corben, Pepe Moreno, tout ça, et donc j'ai grandi avec tout ça. J'ai lu Corben beaucoup trop tôt, comme je disais tout à l'heure, à partir de 7-8 ans, je lisais déjà du Corben et des choses comme ça, Manara aussi, donc voilà, j'ai grandi, j'ai été baigné dans la BD, mais sans jamais vouloir en faire à titre personnel, c'est-à-dire que voilà, c'était tellement dans un environnement, puis mon oncle ayant tellement réussi, que j'ai jamais pensé en fait un jour en faire. C'est vraiment ma progression professionnelle, on va dire, qui à un moment donné a amené Alexandra Benz, qui est responsable, qui quand on s'est rencontré à l'époque était responsable du pôle jeunesse, on va dire, chez nous, mais qui concerne pas que la jeunesse, mais c'est comme ça qu'il est qualifié, et qui maintenant est devenue la numéro 2 en fait des 18, et c'est elle qui m'a invité, qui m'a forcé presque la main, gentiment et avec beaucoup d'amour, à prendre en charge cette partie qu'elle voulait vraiment développer elle de son côté, et voilà, depuis j'ai les mains libres en fait pour faire ce que je désire faire avec la petite maison qui est la nôtre.
Mais il y avait déjà une 404, il existait déjà des bandes dessinées, donc il y avait une nécessité de créer une branche 404 Comics.
Alors je pourrais pas répondre pour Alexandra. Je savais qu'ils avaient fait déjà 2-3 BD très jeunesse pour le coup, ou très young adult, parce que c'était plutôt la direction que prend 404 dans ses gestions de licence, on va dire, dans ses jeux et tout. Même si maintenant il y a un pôle jeu qui est vraiment complètement développé et qui fait vraiment du jeu de plateau. Mais c'est elle qui m'a vraiment dit je veux faire du comics, c'est-à-dire de la BD américaine. Ce qui, moi, au début, me motivait pas forcément, parce que je voyais déjà, même sans travailler dedans, en regardant les chiffres assez quotidiennement, que c'était très dur de développer dans ce domaine-là. Et donc, moi, j'ai juste insisté pour qu'on soit beaucoup plus large qu'uniquement de l'américain. Et surtout, déjà dans un premier temps, d'ouvrir en fait, le panel en, fait, en prenant des Norvégiens avec Jens pour Duns en strip, La fleur de la sorcière, un jeune Italien, voilà, d'essayer de... immédiatement voilà, développer une forme de chaos heureux en fait dans notre pôle éditorial en fait, parce que je voulais pas faire que de l'américain, parce que je pensais que c'était déjà bien développé, donc je voulais voilà qu'on soit suffisamment large, et en tout cas que ça ressemble à ce que moi j'aime en termes de BD quoi. C'est-à-dire que même si demain je le ferai pas parce que c'est trop compliqué aujourd'hui, mais si le marché du manga avait pas été aussi fort aujourd'hui, je pense que je me serais pas empêché d'aller peut-être potentiellement chercher aussi un peu de vieux titres en manga qui me plaisent aussi énormément, voilà. Donc, mais pour l'instant voilà, on n'ira pas parce que voilà, le marché est suffisamment solide ailleurs, et c'est pas la peine de chercher à se mettre des gens à dos pour si peu, quoi.
On te rend compte, dans le cadre de la tournée organisée pour la promotion de Mundus, le fait qu'il y ait des créations originales 404 comics, c'était une volonté de ta part dès le début de la maison d'édition ?
Alors, c'était pas une volonté de départ. C'est-à-dire que quand on m'a proposé le projet, je me suis pas dit je vais absolument faire de la création. Par contre, effectivement, c'est ce qui m'a donné envie de le faire. Quand j'ai d'abord refusé en fait le projet, parce qu'encore une fois, si c'était pour faire que de l'américain, je trouvais ça trop compliqué de juste se fermer à ça. Je trouvais le marché assez riche pour ne pas faire que ça. Et par contre, quand Alexandra m'a proposé de développer le projet en incorporant de la création, là, j'ai vu une forme de cohérence. Voilà, qu'on pouvait donner à la maison et surtout voilà, être aussi actif et acteur auprès des auteurs européens et français notamment.
Thibaut,
ça veut dire que quand tu fais le choix, vous faites le choix aussi en équipe plus large de sortir 6-7 titres par an, grosso modo, c'est pour avoir ce temps-là, accompagner les équipes comme tu le fais aujourd'hui. Et ça participe d'une réflexion plus large. Je sais que voilà, il y a toute une fabrication qui est française sur l'objet, l'ouvrage. Tout ça, ça fait partie d'une sorte de ligne éditoriale où c'est vraiment finalement l'expression de ta passion, l'expression de ta façon de faire le travail d'éditeur, que de passer du temps avec tes auteurs. Et donc pour ça, de réduire le nombre, pourquoi pas, d'ouvrages que tu sors sur l'année, comme tu es là aujourd'hui à Lille.
C'est deux choses qui sont un peu différentes. Un, le rapport à l'objet, ça c'est moi parce que c'est ma formation directeur artistique et puis ma passion pour le livre d'une manière générale. C'est-à-dire que j'achète beaucoup de romans, je lis beaucoup de romans, beaucoup de beaux livres et tout. Donc j'ai un rapport à l'objet c'est fondamental dans mon rapport, en tout cas au livre. Et ensuite, de l'autre côté, le fait de faire très peu de titres, c'était un postulat de départ de ne pas vouloir en faire trop la première année, par exemple. Parce qu'on voulait voir comment le marché réagissait à notre arrivée aussi, tout simplement. Et les lecteurs, quand je dis marché, ça veut dire lecteur, hein, surtout. C'est des termes techniques un peu odieux par moment, mais bon, on parle surtout de lecteurs, quoi. Et donc, je voulais d'abord qu'on voit comment les choses réagissaient. J'avais espoir qu'à partir de la deuxième année, on puisse faire 10 titres. Mais malheureusement, le marché est vraiment trop dur actuellement pour pouvoir le faire. Et on sent bien, en tout cas, on a bien senti la première année, que c'était parce qu'on donnait du temps à chaque ouvrage qu'on leur donnait vraiment une vie réelle. Donc c'est pour ça que la deuxième année, là, on est encore à 6 titres, et que pour la troisième année, le programme étant bouclé, on sera à 7. Donc c'est-à-dire qu'on reste vraiment sur les deux. Et je me rends bien compte qu'en fait, on a besoin de entre 2 et 3 mois pour faire le travail efficacement en termes de communication, et suivre et accompagner un maximum les livres. Ensuite, la tournée, c'est notre deuxième expérience de tournée depuis qu'on a lancé la maison. Donc la maison, elle est un petit peu plus d'un an et demi maintenant. Et on a commencé en faisant deux dates pour We Live, en fait, avec les frères Miranda. On avait fait Lyon et Paris, et on a vu que ça fonctionnait bien. On a senti aussi je recevais en fait beaucoup de demandes directement des libraires en France qui aimaient notre travail, qui avaient envie de le soutenir et de nous accompagner. Et donc c'était forcément beaucoup plus simple sur une création, parce que la création, c'est nous qui la gérons directement, et les auteurs, si je les choisis aussi, c'est parce qu'ils sont pas débordés comme peuvent l'être en fait des gens qui travaillent sur le marché américain, notamment si je parle justement des frères Miranda qui ont fait We Live, c'est des gens qui font un titre par an, un TPB, donc ça veut dire qu'ils font leurs 20 pages par mois de travail, et donc ça, les faire se déplacer, il faut trouver toujours des moments très spécifiques où ils sont en fin de production ou une pause, voilà, donc c'est toujours beaucoup plus délicat, et puis après les accompagner. Encore une fois, c'est normal parce que je peux pas dire à des gens vous allez partir 5 jours sur la route et je suis pas là et personne n'est là pour vous aider, vous accompagner. Et puis même moi, ça me permet aussi de revoir les libraires ou des fois de rencontrer certains, des gens avec qui on communique au quotidien mais avec lesquels on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer directement. Donc c'est aussi, voilà, ça renforce les liens, ça nous permet de développer des choses sur le long terme, quoi. Mais voilà, les trois choses sont un peu séparées, quoi. C'est-à-dire que la question de l'objet, c'en est une. La question du temps que moi je peux donner sur la tournée, c'en est une autre. Et ensuite, le nombre de titres, c'est encore une autre problématique, quoi.
Donc la majorité des sorties 404, pour le moment, ça reste de l'achat de droits. C'est des achats raisonnés ou en fonction d'un coup de cœur, parce que je pense qu'il y a un compte d'exploitation établi au moment de l'achat des droits. Et si tu as vraiment un coup de cœur pour un bouquin, tu pourrais faire une folie, enfin, ou être déraisonnable plutôt.
De toute façon, signer un livre, c'est jamais raisonnable. mais non, alors par contre, Il y a deux choses. C'est un, je ne participe jamais à des enchères. C'est-à-dire que si jamais, c'est arrivé vraiment quasiment pas, hein, donc, enfin une fois ou deux au maximum. C'est-à-dire que si je me rends compte que j'arrive sur des mises aux enchères de titres, j'abandonne directement parce qu'en fait ça m'intéresse pas. Parce que à partir du moment où l'enchère est lancée, ça veut dire que de toute façon ce sera pas rentable. c'est foutu d'avance parce que le marché est tellement restreint aujourd'hui que dépenser des sommes folles dans un titre, même si je l'aime d'amour, ça n'a pas de sens, que je sais que le titre va mourir directement. Donc ça j'y vais pas du tout, ça aurait pas de sens. Et en plus, je me rends compte, alors c'est peut-être parce que j'ai des goûts de chiottes, hein, c'est tout à fait possible, mais je suis généralement très solitaire sur quand je fais une offre.
Ok, et du coup, avec la concurrence, les autres éditeurs, ça se passe comment? Le fait de, ils ont vu comment l'arrivée de 404?
Alors là, il faudrait leur demander, à part ceux qui sont des amis. c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Thierry Mornay chez Delcourt, mais je ne le connais pas personnellement. On s'est croisés très rapidement une fois chez Pulp Comics à Paris, mais on ne se connaît pas. Donc je ne sais même pas s'il a conscience qu'on existe, vraiment en tant qu'éditeur, en tout cas de maison d'édition. Après Sullivan chez iComics, on se connaît depuis une dizaine d'années. Donc on parle beaucoup, on passe des soirées ensemble. En début de tournée, on a commencé par Bordeaux. J'ai déjeuné avec Florent Bliss. Kinaï aussi. Je suis allé le voir quand on était tous à Japan Expo. Je suis passé le voir pour le féliciter pour son travail. Mais je sais pas si ce qu'on peut considérer comme les trois gros, c'est Delcourt, Urban et. Et Panini, je sais même pas s'il y a un représentant en France, moi je sais pas du tout comment ça se passe. Delcourt, j'ai rencontré des gens adorables chez Delcourt, mais c'est pas Erquet, j'ai jamais rencontré Erquet, mais des gens qui travaillent avec lui, qui aiment notre travail et qui le soutiennent, mais je sais pas si on a un impact quelconque, parce qu'au final, on est encore une fois, vu qu'on fait 6-7 titres, on les défend bien, et je pense qu'au regard du marché, on a des belles réussites, très indépendantes, et encore très petites, hein, mais. Par rapport au marché, on s'en sort plutôt bien, mais je suis pas sûr qu'on ait un impact quelconque. Il faudrait leur demander si vous avez l'occasion. Moi, je serais ravi de les entendre.
Probablement, peut-être un impact et un exemple de sobriété dans cette fin d'abondance. Non, mais tout ce que tu expliques comme stratégie autour des choix du nombre de titres. Alors, évidemment, qu'il y a des enjeux économiques qui guident aussi certains choix. Mais moi, ça m'a fait vraiment penser à ça quand j'ai commencé à un chalet qu'on allait se croiser et puis j'ai commencé un peu à potasser tout ça. Je me dis, mais c'est ça la sobriété éditoriale. C'est ça la fin de l'abondance éditoriale. C'est comment, à un moment donné, on réfléchit ses choix beaucoup plus. Parce que derrière, c'est pas que les auteurs qui vont sur le terrain, c'est pas que les auteurs qui vont poireauter chez le libraire en attendant d'éventuels lecteurs, fans ou pas. C'est aussi une équipe, pas forcément l'éditeur non plus, mais une équipe d'édition qui s'engage sur le terrain aux côtés de ses auteurs et qui va défendre un livre et qui prend le temps de le défendre. Je sais pas, on leur posera cette question si on les croise. Est-ce que 404 est le symbole de la fin de l'abondance et de l'exemplarité de sobriété à suivre?
On va revenir un peu sur la fabrication des bouquins. Parce que c'est peut-être la marque de fabrique de 404. Sont des bouquins. Déjà, il n'y a aucun bouquin qui se ressemble. Enfin, les formats diffèrent, des dos ronds, des dos carrés. Il y a eu du souple au début, peut-être ça reviendra apparemment. Il y a peut-être. Oui, Thibaut.
Merci de penser à ceux qui rangent leur BD par éditeur. Hein. Merci.
Il y a tes notes, que ce soit au niveau de la présentation du papier utilisé, le merci qui est à côté du code barre et compagnie. C'est une volonté de ta part, tu nous expliques ton métier, mais est-ce que, alors on va sortir de la BD, peut-être que tu ne voudras pas répondre, moi ça me fait penser au boulot de Vaughan Oliver chez 4ID, qui avait designé toutes les pochettes d'albums, ou alors Peter Saville chez Factory. Donc, je ne sais pas, comment prends-tu cette comparaison?
Waouh, je sais pas où me placer. C'est des gens dont j'ai admiré le travail. Même je rajouterais à titre perso, plus récemment, Jeff Kleinsmith chez Sub Pop. Ça fait partie de ma culture, plutôt ma culture graphique, on va dire. Mon rapport à comment est-ce que on participe à raconter une histoire visuellement et comment on accompagne un livre visuellement. Maintenant, si je dois vraiment me mettre dans une lignée, et en tout cas c'est un hommage frontal et direct, parce que je considère que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, faut lui rendre hommage et citer chez qui on s'inspire. Mais surtout, quand il y a quelque chose de bien et quand il y a une bonne dynamique qui fonctionne en plus, il faut aller dans le sillon en fait. Voilà. Pas parce qu'on veut ressembler à, mais parce que c'est une bonne dynamique. Et moi, je me mets directement dans la dynamique de Dominique Borde chez Toussaint L'Ouverture. Je pense que c'est un éditeur indépendant, certes, mais qui a redynamisé l'industrie. C'est-à-dire qu'il a dit très clairement. On peut faire de l'industrie en faisant du beau et du qualitatif. Et d'autres le faisaient déjà. Moi, je pense même dans un autre genre aux Belles Lettres, parce que je lis beaucoup de choses de chez Belles Lettres aussi. Il y a d'autres éditeurs qui le font très bien. Mais lui, voilà, il l'a vraiment inséré dans un système de communication, dans un rapport à l'objet, dans un rapport visuel et tout. Et donc, je voulais absolument, quand on a lancé le truc, qu'on suive ce sillon-là, parce que c'était celui qui me semblait le plus sain. Parce que ça voulait dire qu'on respectait le lecteur, qu'on respectait l'amoureux de l'objet et qu'on respectait les auteurs. Et donc il y avait quelque chose voilà, de vraiment de pousser là-dedans. Après, mon rapport à la musique, de toute façon, il est ancien. Donc effectivement, Peter Saville et des gens comme ça, c'est des gens, c'est un peu des indépassables en fait. C'est des gens à qui j'ai appris à travailler, mais après, j'ai. Et ce qui est drôle, c'est de réussir à faire la rencontre entre cette culture graphique et une autre culture qui est la mienne aussi, qui est celle du punk hardcore américain. C'est-à-dire que un des groupes, voilà, moi Discord, c'est Discord, Ian McKay, Mind of Red, Fugazi après, Black Flag, Henry Rollins, c'est des gens qui ont quand même bercé mon adolescence et qui avec lesquels je suis pas en face surtout. C'était pas la question, mais c'est surtout que voilà, c'était une dynamique de, il faut le faire et en fait. Il faut le faire tout seul, pas parce que c'est important de le faire tout seul, mais parce que si tu sais pas le faire, tu pourras pas passer non plus au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il faut, moi, je supporte pas de demander à des gens de faire des choses que je ne sais pas faire. Donc c'est-à-dire que j'apprends d'abord à les faire, et puis après je peux demander aux gens de le faire. Et donc voilà, c'est tout un ensemble philosophique, presque d'approche du métier, mais encore une fois, voilà, je veux pas que ça soit ni prétentieux ni donneur de leçons. C'est pas du tout l'idée.
Ok, au sein du catalogue, on en a parlé un peu. Alors, il y a deux intrus en termes de genre, Duns, qui est un comic strip, et La Fleur de la Sorcière, qui est une tentative jeunesse. Vous allez vous aventurer encore dans ces genres-là, ou vous allez rester sur une ligne. Alors, même si Mundus, on peut le mettre dans le récit d'aventure classique, mais est-ce qu'il y aura des branches parallèles à 404 ?
Je sais pas. Alors Duns va revenir en deuxième saison en janvier 2023 parce que je suis amoureux du travail de Jens et que je trouve que c'est un artiste fou et il développe des choses encore à côté en plus de ce qu'il fait sur Duns. En plus du comic strip, il développe des choses en termes d'artiste, en termes artistiques pardon, et en tant qu'artiste qui sont complètement folles. En fait, c'était aussi une volonté au début, comme je disais, c'était je voulais pas qu'il y ait une forme définie. Donc je voulais que ce soit le chaos un peu. C'est-à-dire que je voulais, voilà, un, parce que ça me ressemble, et deux, parce qu'il y avait aussi la volonté, très simplement, de voir comment le marché réagissait. C'est-à-dire que au début, quand tu te lances, tu peux, à part si tu signes DC Comics ou Marvel et tu sais très bien où tu vas et tu sais quel est ton travail, c'est-à-dire que tu as une grosse licence et donc tu suis le truc, bah au début tu te dis, alors attends, là le marché, on sait pas trop à quoi il ressemble, comment il peut réagir, donc tu as besoin aussi de tester d'une certaine façon en fonction de tes affects à toi personnellement, mais tu testes un peu les choses. Donc on s'est bien rendu compte quand même que le secteur jeunesse, on n'était pas suffisamment ni attendu ni solide, c'est à regret hein. Donc je pense pas qu'on continuera forcément là-dedans. La surprise pour nous, ça a été surtout, et pour moi, de voir qu'en fait les titres les plus compliqués marchaient le mieux. Donc là où j'avais l'impression que j'allais me faire plaisir qu'à moi, les gens ont répondu. Donc c'est quelque chose qui me fait plaisir aussi, parce que voilà, c'est des choses avec lesquelles je vais pouvoir m'amuser quoi. Mais pour l'instant, je pense que ouais, sur la jeunesse, on n'y retournera pas. Duns, on va l'accompagner, et j'espère pouvoir l'accompagner encore de nombreuses années.
Duns, il n'y a pas possibilité d'essayer une forme de prépublication dans un magazine quelconque? Le format s'y prêterait bien, ça aiderait peut-être à faire connaître la série.
C'est ce que je voulais faire, mais j'ai pas trouvé. Et malheureusement, je dois avouer que je manque énormément de temps pour, euh, pour aller chercher des choses très spécifiques comme ça, c'est quand même ça demande un temps que malheureusement je n'ai pas actuellement, mais j'en rêverais.
Ok, une question plus généraliste, se lancer dans les comics en France quand le marché stasse et qu'on est en pleine vague de mangas, c'est quoi? C'est croire à fond dans sa bonne étoile ou être totalement inconscient?
Il y avait un truc qu'on disait quand j'étais ado avec mes copains, c'est en droit dans le mur avec le sourire. Mais c'est un peu ça, je sais pas. C'est pour ça qu'au début j'ai refusé parce que je trouvais que le marché était suffisamment établi et tout. Mais il est encore pire aujourd'hui qu'au lancement. Donc même si encore une fois je touche du bois et je suis ravi, on s'en tire vraiment pas mal. Donc, c'est de toute façon, d'une manière générale, je pense que se lancer aujourd'hui dans l'édition, c'est un suicide. Que ce soit du roman, de l'essai, du beau livre, c'est suicidaire. Donc de toute façon, c'est des métiers passion. Ça va faire quasiment 20 ans que je suis dans l'édition. Je sais pas faire grand chose d'autre maintenant. Et je vais pas reprendre une base pour aller monter un groupe, donc je vais continuer à faire ça.
Okay. Est-ce qu'il y a une volonté de construire un catalogue d'auteurs? C'est-à-dire accompagner les prochaines sorties des auteurs que tu as déjà publiés, que ce soit Christopher Cantwell ou les frères Inaki sur WeLive, mais même en dehors de WeLive par exemple?
Oui. C'est très simple. Cantwell revient l'année prochaine, Kulbard revient l'année prochaine, les frères Miranda reviennent l'année prochaine, et puis on verra si on peut développer d'autres choses. On discute aussi des fois avec certains artistes de participer carrément, sans participer à la création en tant que telle, mais par contre d'être moteur et de les aider à financer les montages de projets, même pour les États-Unis ou l'Angleterre. C'est un truc, voilà.
Un peu comme ce qu'a fait Delcourt sur Criminal.
Oui, ou ce qu'a fait Olivier Jalabert chez Dupuis sur Saison de Sang.
C'était une coédition, par
contre. Ouais, mais il était là, il était, vu qu'avec le succès qu'a eu Coda et le plaisir que, semble-t-il, les auteurs ont eu avec lui, ils ont eu envie de lui proposer en amont. Donc c'est des choses, voilà. Moi je sais pas si on peut dire développer une politique d'auteur, parce que développer une politique d'auteur, quand par exemple on signe un artiste, c'est-à-dire si on prend Brubaker à Criminal ou des choses comme ça, c'est lui. C'est lui directement qui finance et qui crée ses projets et qui ensuite les place chez Image, par exemple. Donc là, c'est plus facile de travailler directement avec un artiste qui gère les choses comme ça. T'as encore beaucoup d'artistes aux États-Unis qui vont faire un titre chez The Vault, un titre chez Dark Horse, un titre chez Image, un titre chez Boom. Et donc, réunir un catalogue comme ça, c'est un vrai bordel, parce qu'en fait, chaque vendeur de droits fonctionne différemment. C'est-à-dire que tu peux très bien continuer à travailler avec le même vendeur de droits parce qu'il sait très bien que tu as déjà développé très bien le projet, ça fonctionne très bien, et un autre éditeur français va vouloir prendre le projet et aura plus d'argent que toi à placer. Ce qui est arrivé, on le sait très bien, sur des titres récemment chez Urban, sur un titre en particulier, voilà, où y a eu plus d'argent pour avoir le projet.
Qui avait été annoncé chez iComics.
Alors, je veux pas pointer du doigt les choses, mais oui, c'est malheureusement l'histoire. Donc ça, tu peux le faire quand vraiment, en tout cas à 100%, quand tu as une relation directe avec un auteur et qu'il place ses titres d'une certaine façon au même endroit aux États-Unis, tu peux signer un pacte, tu vois, avec la personne et avec la structure américaine. Donc pour l'instant, je continue à piocher les titres qui me semblent plus en phase avec ce que j'ai envie de faire, parce qu'il y a aussi, on va pas se mentir, un artiste que t'aimes énormément sur quelques titres, il peut faire aussi des choses qui te plaisent moins ailleurs, et avec un marché qui est comme le nôtre aujourd'hui, tu peux pas prendre le risque que toi t'es pas à fond derrière un projet, tu peux pas l'accompagner juste parce que t'aimes l'artiste, quoi. Faut vraiment qu'il y a un sens à le produire, quoi.
Et alors du coup, la question qui complète l'histoire de catalogue d'auteurs, est-ce qu'il y aura du patrimonial chez 404 à un moment ou à un autre, que ce soit du comics ou autre? Tu disais du manga en patrimonial ne sera pas possible à l'heure actuelle, mais est-ce que c'est dans tes idées?
On en a déjà un cette année, vu qu'on réédite pour les 25 ans le Zombie World de Mignola et Makeon. Qui est un titre qui était plus disponible depuis 98 de mémoire, en France en tout cas, et en plus il était sorti à l'époque avec une mauvaise traduction de titre et en noir et blanc, alors que là on a l'édition couleur et avec tous les bonus, les couvertures de Mignola en couleur et en noir et blanc, et tous les roughs de Makeon, et aussi les textes d'intro et d'outro de Makeon et de Mignola qui expliquent la genèse du projet. Donc ça, c'est un titre important parce que c'est un titre que j'aimais moi énormément et qui était vraiment plus disponible, donc c'était une évidence. En tout cas, C'était une évidence. Je comprenais pas pourquoi il était plus édité alors que Delcourt faisait tout Mignola. Et moi, bêtement, quand on a monté la boîte, j'ai fait bah ce titre-là, je l'aime. J'ai appelé le vendeur de droits et on m'a dit bah il est dispo, vas-y quoi. Donc j'y suis allé et on va le sortir. Donc on s'empêche pas ça, même si là c'était un cas particulier parce qu'encore une fois c'est un titre que j'aime énormément et que je trouve qu'en patrimoine il y a quand même des choses superbement bien faites chez Delirium, chez Black and White, chez plein de gens et il y a toujours des choses à sortir et à rééditer. Mais c'est pas des choses qui sont nécessairement viables pour une structure comme la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont quand même qui concernent un public très restreint. Et un titre, tu vois, qui concernerait 1000 personnes, c'est malheureusement pas suffisant pour une structure comme la nôtre. Donc autant laisser ces choses importantes et belles à refaire à des maisons qui le font déjà très bien. Mais après, je peux pas dire jamais.
Au sein d'Editis, comment as-tu vu l'arrivée de Black River ?
Alors, moi je savais que cette maison existait au moment où on a monté, enfin en tout cas ce projet de maison existait depuis le début. Et moi, je t'avoue que j'ai aucun problème avec ça parce qu'à partir du moment où ils voulaient en grande partie faire de la licence d'un côté, ce que moi je refuse de faire parce que j'en ai beaucoup fait avant des gestions de licence et que ça me sort un peu par les yeux, donc j'irai pas, ça m'intéresse pas du tout. Et de l'autre côté, même ce qu'ils font en titre d'auteur, c'est pas des titres que moi j'ai suffisamment apprécié pour vouloir les éditer. Donc on se marche pas dessus, j'essaye de faire en sorte qu'on puisse participer à des festivals ensemble. C'est-à-dire que quand on prend voilà, Kedébul, ils voulaient pas venir par exemple, mais moi j'aurais proposé en fait, parce que ça me semblait important qu'on puisse représenter le groupe, parce qu'on est quand même. Je suis un peu solitaire dans ma façon de travailler, mais je suis conscient d'appartenir aussi à une structure et qu'il faut défendre la structure dans son global et ça me dérange absolument pas. Donc je suis pas plus dérangé si tu veux par le fait que Black River existe que Kurokawa, tu vois. Enfin, je trouve ça très bien. On fait des choses différentes. Des fois, on sera un peu en transversal ou en parallèle sur certaines choses, mais je pense ni que leur rapport et leur désir soient les mêmes que les miens. Donc même s'il y a des titres qu'on pourrait forcément, parce que il y a des très bons titres que tout le monde peut aimer, donc on peut se retrouver dessus. Donc on essaye de travailler en bonne intelligence et de communiquer entre nous, surtout assez régulièrement, et pour pas prendre les mêmes titres ou en tout cas faire les mêmes propositions, ce serait complètement stupide. Et surtout pour aussi en termes de date de sortie, d'essayer au maximum de pas coller des titres qui sont susceptibles de toucher le même lectorat pour éviter de se planter ou l'un ou l'autre, quoi.
Et est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à la revente annoncée d'Editis ?
Inquiétude, oui et non. Le monde de l'édition, il est ainsi fait que c'est des groupes très structurés aujourd'hui qui existent, très, très larges, en fait, qui englobent et qui absorbent énormément de maisons. Donc on va pas se mentir, c'est jamais rassurant pour plein de gens. Maintenant, on va pas non plus. Je vais pas me faire plus gros que ce que je suis. Je suis invisible. Donc je suis inquiet sans être inquiet. C'est-à-dire que t'aurais pas envie que ça s'arrête parce que t'as envie de continuer. Mais quand bien même l'aventure s'arrêterait pour X ou Y raison qui serait liée à une gestion de groupe, j'irais faire autre chose.
Ok, merci. On va arriver à la dernière question qui sera double. Thibaut, non, t'as une question avant ? T'as deux questions ?
Deux mini questions. Enfin, sauf si t'as une petite question avec.
Non, vas-y.
Ah ouais, non, mais je crois qu'on a les mêmes. Après, attends, je te laisse poser les tiennes et je viendrai compléter avec si j'en ai une qui diffère. Ouais, ouais.
Alors, traditionnellement, la dernière question quand on a une interview, c'est quel est ton. Peux-tu nous donner un conseil de lecture pour les auditeurs ? Alors, n'importe quoi, que ce soit BD ou. Mais, par contre, je vais la doubler et j'aimerais que tu répondes à celle-là d'abord. Quel est le livre que tu aurais voulu éditer ?
Ah, le livre que j'aurais voulu éditer. Tout confondu. Tout confondu. Je dirais potentiellement, là, comme ça. Je vais pas prendre les grands classiques, ce serait un peu absurde. Peut-être pas, mais en tout cas, ça me semble absurde tout de suite. Je dirais Watership Down, chez Toussaint Louverture. C'est une aventure épique et l'aventure de la vie presque vue par des lapins. Et ça je l'ai pas lu quand j'étais jeune et c'est un grand regret. Je l'ai lu quand Toussaint l'a réédité. Je l'avais jamais lu et ça a été une baffe monumentale. Donc ça je regrette beaucoup. Et je sais plus qu'elle a édité aussi récemment. Un livre qui m'a foutu une bonne baffe aussi, Unkind de Kaufman, le réalisateur et scénariste. Il m'a foutu une baffe, je sais plus chez qui, peut-être Le Seuil, j'ai même plus la maison d'édition tellement le livre m'a plu, j'ai juste regardé le livre et lu le livre. Ouais, je dirais ces deux-là, là, comme ça, très rapidement. Après, sinon, je te dirais que j'aurais rêvé d'éditer Lovecraft, mais c'était il y a bien longtemps.
Bientôt dans la Pléiade.
Oui, bientôt dans la Pléiade, c'est vrai qu'il va être édité dans la Pléiade, ce qui me paraît totalement surréaliste, surtout que là, si je dois être vilain, je dirais que je ne supporte pas la Pléiade. Je pense que c'est fait partie des pires éditions qu'on puisse faire aujourd'hui.
Ok, et alors du coup, un conseil de lecture pour les auditeurs et même pour nous, parce qu'on n'est pas, on ne connaît pas tout.
Juste avant le conseil de lecture, parce que je voudrais pas finir sur la mienne de question, je voudrais pas que tu finisses. Avant le conseil de lecture, un plaisir coupable dans tes lectures BD. Ouais. Et comme ça, tu pourras finir sur ton conseil de lecture. Ce serait con de finir sur le plaisir coupable.
Un plaisir coupable en BD. Waouh. Oh là, j'en sais rien du tout. Ah, c'est dur. C'est très dur. Peut-être la fin des petits hommes. Allez, parce que j'aime les petits hommes, mais comme la fin, c'était quand même sacrément pourri. Non, puis après, c'était quoi l'autre question? C'était conseil lecture, mais en BD?
Comme tu veux.
Ah, je dirais, il y a un truc qui a été réédité récemment chez Revival, je crois, la maison d'édition de Bernière, qui a adossé au cahier de la BD. Je dirais de lire Peter Bage, Hate, prenez la VO. C'est un peu vilain, mais disons qu'il y a une intégrale VO qui est sortie, qui est géniale. Et Peter Bage, c'est fabuleux. Enfin, lisez Peter Bage de manière générale, mais ouais, je dirais ça, voilà, pour choisir quelque chose.
Ok, ben merci Nicolas pour cet entretien et puis à la prochaine.
Merci à l'équipe d'Astro City qui a rendu cette rencontre possible. Merci à Nicolas Beaujouan pour le temps qu'il a bien voulu nous accorder. On se quitte avec son second choix musical, Over the Ocean par Lowe.